La peste. Souvenez-vous, écoliers d'autrefois, un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Nul ne dira jamais, nul n'a jamais dit mieux que La Fontaine, en si peu de mots, aussi justement, aussi simplement, la terreur qu'inspira la peste, terrible châtiment de Dieu, terriblement meurtrière et qui n'épargna personne alors.
Madame Julien, Monsieur Julien, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Ces vers de La Fontaine nous font comprendre quelle devait être la frayeur des habitants de Saint-Antonin quand la peste apparaissait dans la ville. Madame Julien, qu'allez-vous nous faire écouter pour évoquer ces périodes tragiques?
Je vais vous faire écouter des extraits du Requiem de Mozart.
Monsieur Julien, nous sommes au Moyen-Âge et Saint-Antonin, malgré sa richesse, est souvent frappé par le malheur. Nous ne connaissons plus aujourd'hui d'épidémies meurtrières et il nous est difficile d'imaginer quel pouvait être le comportement des Saint-Antoninois qui voyaient arriver dans leur ville les premiers symptômes de la peste. Vous pouvez essayer de nous le décrire?
Comme on le sait, la première grande épidémie de peste se déclara en 1348 dans nos pays d'Europe occidentale. Elle avait été apportée par un bateau génois revenu de Crimée. C'était la fameuse peste noire, ainsi appelée parce que les cadavres des victimes noircissaient peu après la mort. Intervenue cette mort quelques jours seulement après une forte fièvre, des vomissements, des maux de ventre et des ganglions. De cette première attaque qui a frappé notre cité comme toutes les autres, nous n'avons conservé aucune relation dans nos archives. La soudaineté de l'épidémie, la nouveauté de la maladie surtout, l'intensité des souffrances et l'évolution très souvent fatale ont dû plonger dans la stupeur responsables et chroniqueurs locaux. Pensez bien, ils avaient autre chose à faire que de prendre des notes. Nous pouvons cependant imaginer, grâce à des relations postérieures, écrites au cours de nouvelles attaques de peste, il faut savoir que c'est jusqu'au XVIIIe siècle que la peste sévira dans notre ville. Comment se manifestait le mal? Ce qu'on faisait pour s'en préserver et les mesures sanitaires que l'on prenait. Ces documents, dont je vais faire état, sont extraits de l'un des deux recueils de coutumes de notre ville, magnifique livre, couvert en parchemin, un livre de vie de la communauté en quelque sorte, avec ses textes manuscrits aux belles lettrines colorées et les nombreux petits récits, hâtivement écrits, relatant les événements marquants du XIVe au XVIe siècle. C'est dans ce précieux document que nous découvrons le texte suivant en occitan, que l'on comprendra aisément, j'espère. L'an 1433, quet per tout le pays cruel pestilencio de bossos e de malcaut, e morit gran poble. E praco, per la grâce de Jésus-Christ, en aqueste loc, non avio pun, e l'avialo, a copio de las causas de sus, e en decembre, forudizos las mesos, e cumplidos las causas de sus en la forma que de sus mando que si odizos. E a las processius que facian per vialo, avio gran poble, car cascu la seguio volunties, e ausit las mesos, e decunet per so que Diu nos garde de aquello pestilencio. Ce texte est particulièrement instructif. Il décrit la peste, la cruelle pestilence, qui se manifeste par des bossos, c'est-à-dire des bubons provenant de l'infection des ganglions du cou, des aisselles, des aines. Dans un autre texte, on parle d'anthrax, donc d'abcès noirâtre. Ensuite, des malcaux, c'est-à-dire de fièvre. Enfin, la peste est très meurtrière, mourit grand peuple. Et pourtant, ici, cette année-là, par la grâce de Jésus-Christ, pour cette fois, elle épargnera notre ville. Parce que on aura fait ce qu'il faut pour s'en protéger. On connaît en effet le secret et on possède le talisman. Une copie d'un texte relatant un miracle survenu en Italie, texte parvenu on ne sait comment, après être passé par Saragosse et Toulouse, nous dit-on, jusqu'à nous. Texte qui confirme la croyance déjà admise que la peste est une manifestation de la colère de Dieu, qu'on ne pourra l'éviter qu'en apaisant cette colère par les exercices religieux appropriés. La preuve est ce miracle survenu en Italie et que nous révèle ce curieux texte en occitan que je vous traduis et qui se trouve toujours dans le même cartulaire précité. Miraculum. Il était une fois en Italie un couvent de religieuses de Sainte-Élisabeth où vivaient de nombreuses religieuses. Et en peu de temps, beaucoup moururent, sauf une seule, de sainte vie. Quand cette pieuse dame vit la terre toute dépouillée par la grande mortalité qui s'était établie, elle fit une prière à la Vierge Marie afin qu'elle lui révèle pourquoi notre Seigneur avait envoyé cette cruelle pestilence sur les chrétiens. Alors, en considération de la grande dévotion de la dite sainte dame, la bienheureuse Vierge sacrée Mère de Dieu lui apparut et lui dit « Sache que le mien fils a frappé le monde de cette cruelle sentence et qu'ils mourront tous inexorablement à l'exception de la 12e partie des gens du peuple. » Alors, la religieuse demanda à la Vierge Marie s'il y avait quelque moyen d'arrêter la dite pestilence. Et la bienheureuse Vierge Marie répondit « Tu diras au peuple chrétien qu'on fasse chanter 3 messes en 3 jours, commençant par « Lux Fulgebit » comme la seconde messe de Noël, en l'honneur de Saint Sébastien et de Sainte Anastasie, et que tous les hommes et les femmes et les enfants aient à la main une chandelle allumée pendant que se diront les 3 messes, et que pendant ces 3 jours-là, tous ceux qui sont en état de confesser jeûnent et se réunissent dans le lieu où se diront les 3 messes, et alors la mort et la pestilence aussitôt cesseront. Et si la mort n'y est pas encore venue, elle n'y viendra point, ni la cruelle sentence, ni la pestilence. Et la pauvre pieuse religieuse, entendant la réponse de la Vierge Marie, fut moult allègre et pleine de gratitude. Elle fit accomplir ce qui est dit ci-dessus dans toute la région, et elle le fit savoir en d'autres diverses contrées où sévissait la dite pestilence. Et, aussitôt accompli ce qui est dit ci-dessus, le mal cessait, c'est là une chose prouvée. Et voilà comment, sur la foi de ce texte officiellement enregistré dans le livre consulaire par la toute-puissante autorité de l'Église, on va conjurer le fléau selon un rite minutieusement réglé. La foule immense des hommes et des femmes et des enfants, on en a compté à certaines fois jusqu'à 4000, emplit la nef de l'église abbatiale, où la lueur tremblante des grands cierges qui brûlent devant l'autel de Monseigneur Saint-Anthony sème comme une lumière tragique sur les visages angoissés des assistants qui psalmodient l'oraison prescrite au puissant et miséricordieux Rédempteur Nostre Seigneur Jésus Christ, le tout en Languedoc bien sûr, afin qu'il nous protège de cette tempeste que sont bosse, anthrax et consomption de sang. Puis, l'immense foule partira en grande procession à travers les rues de la ville, derrière les reliques vénérées du Saint-Antonin jusqu'aux portes principales par lesquelles entre la terrible maladie. Il y aura offrande, bénédiction. Une pareille thérapeutique ne pouvait donner, on en conviendra, que des résultats bien aléatoires. Encore qu'il ne faille pas négliger les propriétés curatives de l'autosuggestion. Et déjà, cependant, à cette époque, certains esprits forts, il y en a toujours eu, se refusaient à y croire, à ces cérémonies qu'ils considéraient comme des comédies sans effet. Alors, pour leur faire peur, on leur citait, on leur rapportait ces terribles exemples inscrits aussi dans le cartulaire. Celui de cet homme de Marseille qui ne voulait ni croire, ni jeûner. Et alors, al premier bouchi qui mancet, cassette morfret, au premier morceau de pain qu'il avala, il tomba raide mort. Ou bien celui de cet autre, qui avait refusé de suivre la procession et de croire, comme tout le monde. Alors, quand les gens revinrent de la procession, ils le trouvèrent mort, là, par terre. Des morts, hélas, il y en avait partout, dans les maisons, sur le seuil des portes, dans les rues. Il fallait les enterrer au plus vite dans des fosses communes hors de la ville. Le cimetière n'y suffisait plus. On murait les maisons infestées. On en brûlait les quelques meubles et les vêtements. Certains, les plus hardis, les plus osés, fuyaient hors de la ville, en troupeaux éperdus, se répandaient dans la campagne vers les hameaux où se présentaient à leurs yeux le même spectacle de désolation et de mort.
Oui, monsieur Julien, est-ce que on peut estimer les dégâts que faisait la peste lors de chaque épidémie?
Lors de chaque épidémie, c'est difficile parce qu'il n'y avait pas un compte exact des morts. Les registres d'état civil n'étaient pas tenus à ce moment-là, il faut le savoir. Mais nous avons la chance quand même de pouvoir faire une estimation approximative. On peut considérer que la peste de 1348 fit des ravages épouvantables et dépeupla nombre de villes. Et cela, nous allons essayer de le déterminer grâce à deux références. La première, c'est un recensement officiel de 1341 fait avant la peste, à l'époque de la grande prospérité. Ce recensement dénombrait dans la ville de Saint-Antonin 1709 feux. J'ai expliqué la dernière fois qu'on pouvait considérer qu'un feu équivalait à 5 personnes, ce qui nous donnerait donc une population de 6000 à 8000 habitants. Et un livre de compte consulaire nous apprend qu'en 1377, donc bien après l'épidémie de peste noire, il n'y en avait plus que 900 dans la ville. 900 feux, je dis bien. Ce qui ferait à peu près entre 3600 et 4500 personnes. Il faut évidemment tenir compte, là, pour faire la comparaison, des ravages causés entre ces deux dates par les combats de la guerre de Cent Ans. Mais on peut raisonnablement penser que la peste noire a tué ici à Saint-Antonin au moins le tiers de la population, soit 2500 habitants au moins.
Alors, monsieur Julien, par la suite, est-ce que les Saint-Antoninois ont trouvé des moyens plus efficaces pour lutter contre la peste?
De toute façon, à partir de 1348, la peste continuera de sévir par intervalles plus ou moins rapprochés. Et l'expérience aidant, on trouvera peut-être les moyens. En tout cas, les manifestations de la peste seront favorisées tout au long du XIVe et surtout du XVe siècle par les terribles épreuves que constitueront les combats de la guerre de Cent Ans. Quand enfin, après maintes épreuves, on en arrivera à admettre l'inefficacité des prières et des processions, on adoptera la mesure simple, à laquelle on n'avait pas encore bien pensé, de l'expulsion des malades et de leur isolement. C'est alors qu'on construira, on établira plutôt, au-delà du pré commun, dans ce qui s'appelait alors Albuget, et qui est le territoire compris entre la route de Caylus, le chemin qui descend du district EDF et le chemin qui va au cirque de Nibouzou. Vous voyez ce quadrilatère dans lequel se trouvent bâties les maisons de M. Eugène Roussennac, de M. Brandelat, de M. Tabert. Eh bien ça, c'était le domaine réservé aux pesteux. On l'avait clôturé de palissades avec des épines, et tous ceux qui avaient un signe de peste, on va les conduire là, obligatoirement. Il n'y avait pas question de leur demander leur avis. On les expulsait de la ville, et là, ils disposaient de huttes faites de branchages dans lesquelles ils pouvaient s'abriter. Et tous les jours, des hommes étaient requis dans la ville, pas de bon gré, bien sûr, et allaient porter là-bas la nourriture, la paille, quelques vêtements. L'eau, vous le savez, était à proximité, puisqu'il y a le ruisseau de l'Escoute au Céplot qui coule tout le temps. C'était là qu'étaient les pesteux, et c'est là, chose drôle, qu'ils seront tout le temps jusqu'au XVIIIe siècle. Le terrain était loué aux gens qui en possédaient les terres, et quand l'épidémie de peste était passée, on brûlait les huttes. Pour les gens qui étaient alors morts dans leur maison, eh bien là, il n'y avait pas d'autre solution que de les faire ramasser leurs corps dans des chariots. C'était un spectacle épouvantable, conduit par des hommes, évidemment, qui acceptaient de faire cette tâche, et qu'on appelait les corbeaux, et qui allait ensevelir les morts dans des fosses communes, et quelquefois aussi cimetières, là où on pouvait, et des profondeurs telles que la pestilence ne se répande pas autour. Mais c'était toutes les mesures que l'on pouvait prendre. Et le malheureux qui était soupçonné d'être pesteux, il était expulsé, un point c'est tout, et on brûlait ses vêtements. On murait la maison aussi, la maison était interdite.
Oui, et pour qu'on comprenne mieux cette attitude des Saint-Antoninois devant la peste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu où en était la médecine à cette époque-là ?
Eh bien oui, la médecine au Moyen-Âge, ce n'est pas parce que c'est le Moyen-Âge, mais la médecine au Moyen-Âge en était à ses balbutiements. Les progrès de la physiologie, de la biologie étaient nuls. On avait même perdu les connaissances des Grecs, des grands médecins grecs, et il faudra attendre le XVe siècle et la Renaissance pour que des investigations du corps humain permettent de découvrir le secret des maladies. Alors la médecine était celle que vous avez connue, mesdames et messieurs, si vous avez vécu à la campagne, comme moi tout petit, vous savez que le médecin, il ne venait jamais à la maison, qu'on se soignait par des procédés très simples, qui étaient l'usage des tisanes de plantes, l'usage des purgations toujours par les plantes, l'usage des emplâtres, quand on avait mal à une dent, on mettait un emplâtre, de la moutarde, des cataplasmes synapisés, autrement dit, des traitements extérieurs. Et surtout, évidemment, l'invocation des dieux, de Dieu, des saints. Et quand on avait un enfant estropié, vous savez ce qu'on faisait ? Eh bien, on le prenait, et on allait là-bas, à Sainte-Trope, au-dessous de Verfeil, et on le plongeait dans la fontaine de Sainte-Trope, en espérant que Sainte-Trope le guérirait. Vous savez sans doute que Sainte-Trope, ça vient de estropié. La médecine en était là. C'est peut-être dommage, mais il ne faut pas en conclure que le Moyen-Âge était une période d'arriéré. Non, non.
Oui, et puis, peut-être l'Église avait-elle intérêt à ce qu'on ne recoure pas trop à la médecine pour soigner la peste ?
Il est certain que l'Église avait, surtout l'Église de cette époque-là, de la fin du Moyen-Âge, avait une tendance à maîtriser le vouloir, l'imaginaire des peuples, voulait maintenir les gens dans la crainte de Dieu. C'est sans doute en partie l'Église qui est responsable de ça. Encore qu'il y ait des gens d'Église qui fait faire des progrès à la biologie, à la thérapeutique.